Bah écoutez, bonjour à tous, je suis ravie d'être là encore parmi vous. C'est vrai que je commence à prendre l'habitude et je retrouve des visages connus d'une séance à l'autre. Alors c'est vrai que c'est très plaisant pour moi. Et puis c'est toujours un grand moment aussi quand on présente un nouvel ouvrage, celui-ci dans les bacs depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Et c'est pour moi un plaisir que de vous le présenter. D'autant qu'il fait la liaison avec la collection La Philo ouverte à tous, donc que je vous ai déjà présenté, qui est paru aux éditions Ellipse et qui suit son cours puisque d'ici 3 semaines sortira l'ouvrage sur le politique. Mais en attendant, eh bien c'est vrai que le tout dernier qui était paru, c'est L'homme bouleversé avec les remèdes philosophiques. Et l'ouvrage que je viens d'écrire pour les éditions Mémogrammes, donc qui sont sur Bruxelles, fait le lien avec ces deux ouvrages, puisque là, c'est La sagesse de vivre, Les philosophes et la mort. Vous pouvez considérer que les deux sont intimement liés, bien qu'ils abordent deux thématiques complètement différente, j'ai presque envie de vous dire. Certes, il y a un axe commun, la sagesse, mais pas seulement. Il y a aussi l'idée de répondre à la question dont on a parlé la dernière fois, à savoir le dieu des philosophes. Le principe des collections, eh bien vous le connaissez maintenant. Tout ce qui relève de la philo ouverte à tous concerne des essais sur la société d'aujourd'hui et je fais des liens avec des philosophes de l'Antiquité à nos jours. Parallèlement à cela, dès que je donne un nom d'auteur ou une référence à un personnage historique ou philosophique particulier, je vous livre une petite biographie en note de bas de page de manière à ce que vous n'ayez pas de difficulté à la lecture. Par ailleurs, dès qu'il y a un concept un peu complexe, eh bien je donne un synonyme de manière à ce que la lecture soit également simplifiée. J'ai donc publié quelques ouvrages dans la philo ouverte à tous, et il y a un ouvrage hors série qui est Les philosophes vus autrement, et ce sont les philosophes vus par les anecdotes. Donc ce sont des tranches de vie assez particulières, des épisodes singuliers qui leur sont arrivés, plus ou moins comiques d'ailleurs, et je fais des liens ensuite avec leur philosophie pour dire est-ce qu'ils ont été aussi sages qu'ils ont souhaité que les autres le soient. Et donc c'est vrai que ça donne un livre avec 27 anecdotes, et sur les 27, je tiens quand même à vous rassurer, 25 ont été à la hauteur de leur philosophie. Deux seulement ont un peu dérogé à la règle. Et puis pour ce qui est de la collection Les carnets de l'Olympe, donc c'est le tout nouvel ouvrage là qui vient de paraître chez Mémogrammes. C'est une collection pour laquelle j'ai lancé le premier tome à la demande de Monsieur Luc Verton qui est l'éditeur. Et les autres ouvrages seront écrits par d'autres auteurs que je suis en train de choisir, sélectionner, pour qu'il y ait une pluralité de thèmes, mais toujours avec un fond philosophique. Donc il y aura des sujets sur la justice, il y en aura sur le corps en expression, il y en aura sur la musique, il y en aura sur bien des choses, mais toujours avec cette trame philosophique pour soutenir le livre et aussi une réflexion commune. Voilà pour l'idée de cette collection qui commence par ce premier volume. Alors comment envisager la sagesse de vivre et surtout comment faire ce lien avec cet homme bouleversé ? Avec l'homme bouleversé, j'ai posé la question où en sommes-nous aujourd'hui, à l'aube de ce 21e siècle, et comment envisageons-nous notre fonction au sein de la cité ? Je dis notre fonction parce qu'il est vrai que les hommes ont beaucoup de difficultés à se remettre de ces désagréments qui ont marqué ce siècle dernier. Je dis désagréments, c'est un mot un peu léger par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais c'est pour expliquer que tout n'a pas été mauvais non plus dans ce 20e siècle. Tout d'abord, on sait que les hommes ont été profondément marqués par les deux guerres. On sait aussi qu'il y a eu, bien sûr, les bombes atomiques. On sait qu'il y a eu beaucoup de détresse en ce siècle, mais on sait aussi qu'il y a eu l'évolution des mœurs, l'évolution des moyens techniques et technologiques, et presque une révolution, j'ai presque envie de vous dire, du point de vue de la technicité. L'homme s'est donc vu repenser au sein du monde, puisqu'il lui a fallu, en quelque sorte, très vite se familiariser avec un monde industriel et technique dont il n'avait pas encore la possession avant ce 20e siècle. Donc c'est cet homme qui, en quelque sorte, se demande, en arrivant au 21e siècle, comment il va pouvoir, en quelque sorte, dépasser le siècle qui fut un siècle de grands mouvements et de grandes nouveautés, et surtout comment il va pouvoir répondre à ces premières questions qui sont celles de la philosophie. Je veux dire par là que l'homme du 21e siècle est aussi un homme déçu parce que le 21e siècle s'ouvre sur les mêmes questionnements que ceux que se posaient déjà les hommes dès l'Antiquité. En bref, ce que je veux vous dire, c'est que l'homme aujourd'hui se demande toujours d'où il vient et la science n'a pas répondu. C'est pour ça qu'il se sent un peu déconvenu à l'égard de cette science qui avait fait de grandes promesses et qui finalement, du point de vue des questions des origines, ne les a pas tenues. En tout cas, n'a pas apporté encore complètement les réponses espérées. Et puis, la sagesse de vivre, c'est aussi ce moment où l'homme doit repenser son projet et se dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a à faire dans ce monde et comment il va développer en fait sa pensée et ses actions. Alors le deuxième moment qui nous interpelle aussi, c'est cette liaison que fait l'homme avec son projet personnel, c'est-à-dire tout ce qui rejoint ses affects, tout ce qui rejoint ses débordements, tous ces moments où particulièrement il s'investit dans le monde en se disant « qu'est-ce que j'ai à y faire ?» Et j'ai fait un constat dernièrement, c'est que certes nous, en philosophie, nous parlons souvent de la sagesse, d'une manière de se mettre à distance de nos passions, on évoque la tempérance et puis une certaine réflexion avant d'agir, et puis finalement on se rend compte que la vie nous rattrape et que bien vite, lorsque nous agissons, eh bien, nous sommes plutôt agis par l'extérieur. Et ça, j'ai mis du temps à l'écrire parce que c'est vrai que je me sentais moi-même passionnée, investie dans ce que je faisais, mais j'avais pas l'impression que c'était le monde qui m'agissait, au sens un monde qui me manipulait. Or, depuis quelque temps, c'est un peu plus clair. J'ai l'impression, effectivement, que je vis pleinement les choses, je jaillis dans ce monde, et puis ce monde, bien vite, m'accapare, et je réalise que j'arrive à me poser et à réfléchir après coup. Donc, je peux m'emporter, par exemple, après quelqu'un, alors que les raisons ou les motifs de cet emportement sont absolument minimes ou ridicules. Je me rends compte que je suis dans l'affect lorsque je le rencontre et que la passion est en train de naître. Je me rends compte que la misère ou les choses qui peuvent me toucher ou me troubler sont toujours présentes et que j'y réagis toujours avec autant d'intensité. Ce qui fait que l'homme aujourd'hui se pose comme étant celui qui s'oppose en même temps à un monde et qui s'interroge sur la manière dont il peut gérer au mieux ses affects quand il se sent troublé et affecté par la passion. Et puis le troisième moment, qui aussi est important à mon sens d'un point de vue philosophique, c'est ce moment particulier où l'homme prend conscience qu'il est mortel, que sa vie finalement ne tient pas à grand-chose et qu'il peut perdre la vie à tout moment. Et perdre la vie peut quelque part inquiéter ou interpeller les individus au point qu'il y ait une sorte de renoncement. Et en fait, une fois que j'en arrive là, eh bien, c'est le moment où je commence la sagesse de vivre. En fait, la sagesse de vivre, c'est ce moment particulier où le philosophe, je pensais à Camus, s'interroge et dit, voilà, nous sommes jetés dans le monde, nous avons à y vivre, et pourtant cette vie qu'on nous a donnée, eh bien, elle nous sera reprise. Donc comment vivre avec cette idée de la finitude? Comment, en quelque sorte, sans être dans la tristesse, tout simplement en se mettant peut-être en retrait par rapport à la question, comment se demander si ça vaut la peine ou pas d'être vécu? Et Camus l'a très bien formulé en disant, dès le début d'ailleurs de son introduction au mythe de Sisyphe, il avait formulé la question ainsi. Il nous avait dit, et c'est particulier, mais en même temps c'est puissant comme question. Le premier problème philosophique, c'est de savoir si la vie vaut la peine ou pas d'être vécue, ou pas. Voilà. Et on se dit, on voit Shakespeare avec le crâne à la main, en train de le contempler, en train de se dire, to be or not to be. Est-ce que je suis ou est-ce que je ne serai pas? Est-ce que je vais vivre ou est-ce que je vais choisir immédiatement de me supprimer? Et à partir du moment où j'aurai posé la question et que j'y aurai répondu, qu'est-ce que je vais faire après? Parce que c'est toujours pareil, dire, oui, je veux vivre, c'est une chose. De même que dire, non, je ne vivrai pas. Parce que ça veut dire que si je ne veux pas vivre, il va falloir que je me donne les moyens de la mort. Et c'est un moment extrêmement difficile aussi. Donc voilà la question, elle se pose en ces termes. Est-ce que ça vaut la peine ou pas d'être vécu? Et quand on y réfléchit, c'est là que vient le trouble. Que vaut une vie? Et la question devient complexe quand on la pose pour soi, parce que bien souvent, quand on répond « ça vaut la peine », c'est parce qu'on a estimé que les circonstances de notre vie sont favorables au point que nous ayons envie de vivre. Et à l'inverse, j'ai presque envie de vous dire, quand ça n'en vaut pas la peine, c'est qu'on estime qu'en mettant dans la balance les circonstances de notre vie, trop d'idées viennent contrebalancer l'idée du vouloir vivre. Et c'est pour ça qu'on peut se dire que ça n'en vaut pas la peine. De la même manière que certains philosophes d'ailleurs vous disent que lorsqu'on choisit le suicide, en fait on ne le choisit pas. c'est plutôt des circonstances qui s'additionnent, qui, mises l'une à côté de l'autre, vont pousser à l'acte désespéré. Et on va dire qu'il y a un meurtre sans criminel. Ça veut dire d'une certaine façon qu'on peut décider de mourir et que la mort n'est pas du fait d'une volonté bien éclairée, j'ai envie de vous dire, mais tout simplement le fruit d'une accumulation de choses désespérantes ou insupportables qui font qu'à un moment donné, ça n'en vaut plus la peine et ce sont les circonstances qui nous tuent. Voilà en fait comment on peut poser la question du vouloir vivre et se demander ce que vaut la vie, c'est aussi, et en quelque sorte, passer au crible chacune des raisons qui nous poussent à vivre. Alors bien sûr, l'homme répond souvent par l'affect. Il va dire, je choisis de vivre, j'aime vivre, parce que eh bien, je me sens entouré, parce que j'ai des amis, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des enfants. Et donc, tout ce monde affectif représente des piliers comme ça qui sous-tendent l'existence et qui soutiennent l'homme de manière à ce qu'il puisse être debout. Et puis la question qui amène la volonté ou pas de vivre, je parlais tout à l'heure du système de la balance, c'est-à-dire du poids. Et on se dit comment peser son existence, en tout cas comment l'évaluer quand elle n'a pas encore été vécue. Je peux dire aujourd'hui par exemple que ma vie est désespérée, trouver qu'il y a toutes les raisons pour y mettre un terme, et pourtant demain, il peut m'arriver une chance considérable, je peux, entre guillemets, avoir tout un ensemble de circonstances favorables qui viennent me conforter dans l'idée de vivre, et à ce moment-là, ça aura valu la peine d'attendre. Donc en quelque sorte, la difficulté d'évaluer aussi le vouloir vivre ou la nécessité de vivre, c'est aussi une question qui est délicate parce qu'elle se pose dans le temps, et toute vie n'est jamais suffisamment désespérée aujourd'hui, ou suffisamment heureuse aujourd'hui, pour pouvoir être en quelque sorte enfermé dans la décision. Voilà la difficulté pour un philosophe lorsqu'il parle de peser ou en tout cas d'évaluer l'existence au point de décider si ça vaut la peine ou pas. Alors vous vous doutez bien que j'ai estimé que la réponse était oui, ça vaut la peine d'être vécu, sinon dès l'introduction je terminais l'ouvrage. Si ça n'en vaut pas la peine, je me suicide et à ce moment-là tout est terminé. C'est le Kirillov qui dit comme ça, si Dieu est mort, tout est permis, y compris se brûler la cervelle. Et on dit, une fois qu'on s'est brûlé la cervelle, il ne reste plus rien. Donc on n'a plus de possibilité de témoigner de ce que l'on est. Donc il fallait à ce moment-là donner des raisons du vouloir vivre et expliquer en fin de compte comment l'homme peut-il choisir de vivre et de décider aussi comment allait être perçue cette vie. Quand vous faites référence à un philosophe qui s'appelle Nietzsche, il vous dit souvent « Sois heureux et fais ce que tu voudras ». Ce qui veut dire que, à partir du moment où l'homme est capable, dans l'esprit, en fin de compte, dans sa motivation, de décider pour lui-même que les jours sont heureux ou pas, c'est lui qui, en quelque sorte, donne une coloration à son existence. En d'autres termes, vous en avez fait l'expérience, lorsque vous vous levez légèrement désespéré ou un peu chagriné par quelques événements qu'ils soient, vous vous rendez compte que le moindre élément, le moindre grain de sable qui vient en fin de compte enrayer une machine bien rodée, va faire que déjà pour vous ça commence mal. La journée commence mal et pour peu qu'en arrivant à votre travail, vous vous rendiez compte qu'il y a un peu d'agressivité dans l'air ou que vos camarades de travail sont pas tout à fait disposés à discuter avec vous ou que tout simplement une grève fait que le métro, ben vous l'avez, il y en a pas. Donc il va falloir changer le cours de sa vie en fonction d'éléments désagréables. Vous vous dites que finalement tout est désespéré et qu'il valait mieux rester couché. Ce qui veut dire que l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder tous ces événements, qui sont pas si dramatiques que ça, si on les relativise et si on les pose les uns à côté des autres, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, le mental, en tout cas la vision que l'on porte sur les événements et pour les relativiser est importante. Ce qui veut dire que dans cette volonté de vivre, il y a aussi le regard que l'on porte sur les événements que nous vivons qui peuvent en déterminer aussi le contenu. Alors c'est important parce que pour un philosophe, eh bien ça rejoindra toute une sagesse qu'ont décliné les anciens, notamment dans l'Antiquité. Comment aborder l'existence? Comment vivre pour trouver une sorte de plénitude de vivre? Et là c'est intéressant parce qu'on peut aborder un concept qu'on appelle l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Vivre dans l'absence de trouble, c'est éprouver la sérénité, c'est être dans une sorte de bonheur, du sage, c'est-à-dire une vie ascétique, dans laquelle on se réalise et dans laquelle on est heureux. On peut faire référence à des épicuriens pour commencer. Alors on est chez Épicure ou Lucrèce, on considère qu'il faut limiter ses désirs pour être heureux. C'est-à-dire que plus vous accentuez la volonté d'accéder à telle ou telle chose, plus vous accédez aussi à un niveau de vie de plus en plus luxueux ou de plus en plus agréable ou de plus en plus, comment dire, favorable à vos souhaits. Le problème, c'est que parfois la vie va vous obliger à mettre un bémol sur vos volontés. Parfois, vous n'allez pas avoir la possibilité de bénéficier de tel ou tel avantage, de tel ou tel luxe, de tel ou tel loisir. Ce qui fait que dès que un souhait particulier ne pourra pas être réalisé, eh bien vous allez vous chagriner de la chose, ça va vous troubler et vous allez éprouver le manque. Le manque, ça sera l'absence de cette chose que vous aviez communément et que vous ne possédiez plus aujourd'hui. Alors, dans l'absence, on peut considérer l'absence d'un ami, quelqu'un qui est disparu, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous. Eh bien, ce moment de solitude va renforcer, on va dire, ce désir de l'irréalité, c'est-à-dire quelque chose qui concrètement ne s'est pas réalisé pour vous. Ce qui veut dire que l'absence, le manque, vont s'additionner et vont faire que votre existence va devenir plus complexe. Plus complexe du point de vue de l'affect, bien entendu. Ce qui fait que quand on y réfléchit, un épicurien va vous dire « Il faut se mettre à distance de ces désirs vains qui finalement affectent l'esprit, rendent malheureux, parce que petit à petit, eh bien, nous ne parvenons pas à réaliser tout ce que nous souhaitons réaliser. » Donc c'est une philosophie en quelque sorte du renoncement. Un épicurien renonce, mais il renonce pas pour être malheureux, c'est-à-dire que c'est pas de la privation, il renonce parce qu'il a trouvé que dans des plaisirs simples, il pouvait se satisfaire. C'est comme ça qu'Épicure vous dit « un verre d'eau et du pain et je rivalise avec Zeus ». Ça fait un peu maigre, hein, un peu d'eau, un peu de pain. C'est vrai qu'on aimerait un peu de confiture sur son pain et remplacer peut-être de l'eau par un bon chocolat chaud. Enfin bref, on a envie d'améliorer l'ordinaire, mais un épicurien vous dira que ce n'est pas sage. Parce que le jour où vous ne pourrez plus avoir de confiture et votre chocolat chaud, revenir au morceau de pain et à l'eau sera une punition. Donc l'ataraxie, c'est ça, ne pas créer le désir, ne pas créer le manque, ne pas avoir envie de choses trop ambitieuses, de manière à ce que l'on puisse se complaire dans une sagesse de la simplicité. En désir vain, il y a aussi la peur de la mort. Parce que, bien sûr, un épicurien va vous dire, si vous redoutez la mort, la vie sera insupportable. Et un épicurien va donc relativiser l'événement. D'abord, il vous dit, tant que l'on n'est pas mort, la mort ne nous concerne pas. Ce qui veut dire que je dois considérer qu'étant vivante, je dois vivre et vivre pleinement. Et quand je serai morte, eh bien je ne serai plus pour parler de la mort. Ce qui veut dire que finalement, l'événement étant passé, ça sera un événement qui ne me concerne plus. Donc l'épicurien a mis de côté la mort en disant que c'est pas maintenant, et après ça ne sera plus, donc ce sera trop tard. En fait, la mort ne nous interpelle finalement que dans le « je me meurs ». Or le « je me meurs », on ne le dit pas spécialement. Ou en tout cas, comme c'est un passage finalement, on n'a pas véritablement de gens qui témoignent du « je me meurs ». Donc on dit « je vis, je vais mourir », mais l'acte, ou en tout cas la prononciation au présent d'un « je me meurs » ne se fait pas. Et pourtant, vous savez très bien, c'est Sioran qui vous le dit, ça ne s'arrange pas d'ailleurs avec le temps pour lui, hein, on est toujours dans l'idée qu'on est en sursis, et en plus il rajoute que cette phrase assez... ironique en même temps, mon corps craque de tout bois. C'est-à-dire que tous les jours, ça craque un peu. C'est-à-dire que depuis que je suis née, tous les jours je vieillis et tous les jours je meurs en fait. Je meurs un peu parce que tous les jours, je me rapproche de ce moment particulier de la mort. Donc voilà, un épicurien vous dira, attention, ne pas redouter la mort parce que l'événement n'est pas immédiat. Ensuite, il vous dira, ce même épicurien, ne craignons pas les dieux. Alors là, la dernière fois, on a parlé du dieu du philosophe, et rappelez-vous, on a dit qu'avec le temps, on peut vider, entre guillemets, le ciel, notamment avec Nietzsche, de cette crainte de Dieu, une crainte qui serait liée soit au châtiment, soit à l'idée de récompense. Mais si les hommes redoutent la mort, c'est surtout lorsqu'ils considèrent qu'après ce passage particulier, il y aura soit plus rien, soit l'enfer, c'est-à-dire l'idée de quelque chose qui brûle, quelque chose qui, en fin de compte, nous torture pour l'éternité, Et ça, pour les hommes, c'est insupportable. Donc la mort, elle peut être associée à un paradis, mais dès qu'on pense à autre chose, c'est-à-dire à quelque chose de complètement désagréable, eh bien ça peut renforcer l'angoisse. Or, que nous dit un épicurien ? Il nous annonce tout simplement que la mort n'est rien, parce que les dieux, d'une certaine façon, ont autre chose à faire que de s'occuper des hommes. Alors ça, c'est assez paradoxal, mais en même temps, c'est intéressant. Les dieux de l'Antiquité, ce sont des dieux qui s'occupent du mouvement des astres. Étant occupés à ce mouvement des astres, eh bien, ils s'occupent de la physique de l'univers. Donc, ils n'ont pas le temps de regarder, comme avec une loupe sur le monde, si les hommes font des bêtises, commettent des crimes, des vols, etc., etc. Donc, ils s'en désintéressent. Autre chose également, non seulement ils s'en désintéressent, mais ils sont très occupés avec des déesses qui sont plus ou moins perfides, jalouses, possessives. Alors ils sont dans leurs petits épisodes de vie et leur existence semble assez occupée sans qu'ils aient nécessairement à espionner les hommes. Donc partant de là, les dieux ne nous observant pas, ils ne peuvent pas savoir si nous commettons le bien ou le mal. Par conséquent, ils ne nous puniront pas. Et puis en plus, un épicurien considère que la mort est ce moment particulier où l'âme sort du corps et elle est mortelle en même temps que ce corps. C'est-à-dire que si l'âme et le corps sont mortels ensemble, d'un point de vue matérialiste, il n'y a pas à envisager d'au-delà, il n'y a pas à envisager de moment particulier où il y aurait un arrière-monde des pensées. Je ne sais pas si le téléphone, c'est Dieu qui m'appelle pour me dire qu'il est là et qu'il existe. C'est pas grave. Non, mais on ne sait jamais. Si Dieu me dit, tu dis qu'il n'y a rien là-haut, mais je te confirme que je suis là. Bon, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire qu'avec un épicurien, on obtient l'ataraxie en se mettant à distance de ses passions, en se mettant à distance de ses désirs vains qui font que l'on peut redouter la mort parce qu'on craint finalement le châtiment dernier, ou en même temps que l'on craint ce passage particulier de la vie à trépas. En fait, ce passage particulier de la vie après à trépas, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le « je me meurs ». Mais le « je me meurs » rejoint surtout un mot grec qui est l'agonie, de « agone ». L'agone, c'est la dernière lutte. Donc en réalité, ce que les hommes redoutent, c'est que ce passage par la mort soit le passage difficile de la durée, une agonie qui durerait plusieurs jours. Et encore, ils vous disent « si je ne suis pas conscient de ce qui m'arrive, c'est pas vraiment grave ». Donc quelque part, c'est la prise de conscience de l'agonie, la peur parce qu'on sent que l'événement approche et que cet événement emporte avec lui l'idée de l'inconnu. Et c'est cet inconnu qu'on associe souvent à un pathos et à une souffrance, ce passage particulier, qui fait peur aux individus et qui fait que finalement, ils redoutent la mort et veulent se mettre à distance de l'événement. Alors bien évidemment, un épicurien ne répond pas à cette question-là, puisque la sagesse veut que de notre vivant, nous soyons dans une sorte de sagesse ascétique qui fait qu'on profite de l'instant présent, sans faire d'excès et en ne redoutant pas la mort, c'est-à-dire qu'on vit dans une simplicité. On peut rajouter qu'avec les stoïques, eh bien on garde la même idée, l'ataraxie, mais en plus un stoïque, c'est celui qui va bâtir la forteresse intérieure, c'est-à-dire c'est en lui les schématypes, j'ai presque envie de vous dire, de résistance à la crainte ou en tout cas à la peur de la mort. Alors déjà, on relativise la peur de la mort pour soi en disant « je ne redoute pas la mort puisque c'est un phénomène qui doit arriver ». Et un stoïque vous dit « il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos jugements. Ce qui n'en dépend pas, la santé du corps, la richesse et la gloire. En d'autres termes, à partir du moment où nous intégrons l'idée que le corps est mortel, c'est-à-dire qu'il possède en lui sa finitude, eh bien cela signifie tout simplement que ce corps peut se briser, c'est-à-dire la vie peut se briser. Donc un stoïque intègre dès le départ cette définition de la vie qui s'achève. L'ayant intégrée, il ne la redoute plus puisqu'il considère presque avec fatalité que cela fait partie de sa condition d'être, sa manière d'être, j'ai envie de vous dire. Et puis, il a relativisé aussi la mort de l'autre. C'est-à-dire, un stoïque, je pense à Épictète, c'est assez dur ce que je vais vous dire, mais il en parle ainsi. Il dit, habitue-toi à l'idée que ta femme ou tes enfants peuvent mourir, parce que ta femme est comme une marmite, alors on pense à une marmite en terre à l'époque, qui peut se casser. Ça veut dire que si quelque chose peut se casser ou est de l'ordre du périssable, il ne faut pas s'étonner qu'un jour ça casse ou que ça périsse. Donc là aussi, il faut accepter la finalité de l'objet en se disant qu'il est possible de l'abîmer, il est possible de le casser, et par conséquent, il ne faut pas en être affecté avant l'heure. Alors c'est important parce que les stoïques, pour ça, ils sont très forts, ils bâtissent progressivement des résistances à la crainte, à la peur, à la passion, donc au pathos, et c'est comme ça qu'ils parviennent à se libérer l'esprit et à devenir plus heureux. D'ailleurs, ils le disent, tu viens de perdre un objet auquel tu tiens, un bijou, quelque chose que tes parents t'avaient remis, et donc pour toi ça porte une charge affective particulière, eh bien heureux celui qui l'aura trouvé. Donc en d'autres termes, il n'est pas perdu pour tout le monde, et toi tu ne dois pas être triste, c'est que maintenant le temps est passé, tu en as disposé, maintenant il est pour quelqu'un d'autre. Alors vous voyez, le stoïcisme c'est vraiment une philosophie qui est assez dure finalement. Je dis toujours, moi, j'adore cette philosophie, mais quand rien ne m'affecte. Parce que finalement, voilà, l'avantage c'est de pouvoir faire de la philosophie quelque chose qu'on pourrait appliquer. Je me sens très stoïque parfois, et finalement je me rends compte que je suis stoïque quand les choses ne m'affectent pas. Et le travail du philosophe, c'est justement ça, c'est pas d'être sage en soi, on l'a bien compris. Souvent le philosophe ne l'est pas, mais c'est plutôt de tendre vers la sagesse, et donc vis-à-vis de la mort, tendre vers la sagesse, eh bien c'est s'habituer à l'idée de la mort. Habitue-toi à l'idée que tu vas mourir. D'ailleurs, Montaigne disait, en tant que sceptique, philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais quand on dit apprendre à mourir, ça sous-entend aussi apprendre à bien vivre. Parce que dès qu'on a occulté ce passage que l'on redoute, qui est celui de la mort, eh bien la vie prend tout son sens. De la même manière que c'est parce que l'on doit mourir un jour que cela prendra son sens aussi, parce que sans ce passage particulier par la fin, eh bien la réalité existante actuellement n'aurait pas en soi de sens. Donc l'homme doit intégrer l'idée qu'il est mortel et que chaque jour, en fin de compte, qui lui est accordé, eh bien, est comme une chance supplémentaire de s'épanouir, d'agir et de construire, en fin de compte, ce qu'il est. Alors les philosophes dans l'Antiquité, je vous l'ai dit, sont très sages parce que finalement ils arrivent à se mettre à distance de la mort, ils arrivent à la relativiser parce qu'ils y ont répondu étrangement, soit par l'idée que c'est vraiment une finalité et que le corps est ainsi fait et donc il ne faut pas aller chercher plus loin, soit ils ont répondu par des philosophies qui posent un arrière-monde. Et cet arrière-monde, je pense ici à Platon, eh bien, nous envoie dans un ciel des idées, nous renvoie à la possibilité de rejoindre le monde des dieux. Et donc une fois qu'on a rejoint le monde des dieux, eh bien il y a tout un temps pour Platon durant lequel on reste presque en suspens comme ça dans ce ciel. On contemple les valeurs, le beau, le vrai, le juste, la tempérance, le bien. Et quand on a contemplé toutes ces valeurs, au bout d'un certain temps, eh bien on fréquente aussi le fleuve de l'oubli, c'est-à-dire qu'on les oublie progressivement et on réintègre ensuite un corps. Donc avec Platon, vous l'avez bien compris, on a la possibilité d'un retour, ce qui fait qu'on comprend bien que ce qui pose problème finalement, c'est la mort, mais c'est aussi ce qu'on a mis dans la mort. Et on réalise que certains philosophes, comme certaines religions d'ailleurs, ont posé dans la mort une possibilité de vivre à nouveau. Donc les hommes ont beaucoup de mal à en finir avec la fin, j'ai envie de vous dire, puisque la fin n'est jamais la fin dernière, il y a la possibilité d'un retour, il y a la possibilité aussi d'être l'élément d'autre chose. Quand je parle d'élément, je vais faire allusion ici à cette notion d'atma que l'on retrouve dans l'Antiquité. L'atma, c'est l'âme du monde. Et on sait que pour certains philosophes, lorsque nous mourons, l'âme rejoint le grand tout, c'est-à-dire qu'on est un peu chez Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que nous servons d'aliment à autre chose et ça sous-entend que nous ne sommes pas complètement perdus. Donc c'est cette notion de finalité qui interpelle l'homme et qui lui est parfois insupportable. Alors je l'ai dit, le problème c'était le problème de l'évaluation. À partir du moment où on a dit qu'on allait vivre et qu'on relativise cet épisode dernier que constitue la mort, eh bien ça y est, on peut entrer dans une forme de plaisir de vivre, en tout cas de sagesse de vivre. Alors en quoi consiste-t-elle? Déjà j'ai presque envie de vous dire qu'il faut penser à donner un but à son existence. Et là je vais passer par Camus pour vous en parler. Vous vous rappelez du mythe de Sisyphe, mais peut-être que vous n'avez pas à l'esprit cette fameuse référence à la jeune dame qui vient de perdre sa sœur. et qui se retrouve dans la situation d'hériter. Et elle hérite de 200 francs à l'époque. Et les 200 francs, ben, elle se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Ça représente quand même une somme. Et elle décide de prendre cette somme d'argent et d'investir non seulement pour le tombeau de sa sœur, mais elle se dit, tant qu'à faire, je vais prévoir une petite place pour moi. Donc elle achète la terre voisine de la tombe de sa sœur, de manière à être enterrée près de sa sœur quand elle mourra à son tour. Et puis ben, elle meurt pas. Alors elle se dit, ben, je vais fleurir le tour de la tombe. Et puis je vais graver ma date de naissance, pas la date de mort, je suis encore vivante. Et puis petit à petit, cette femme se lève pour aller fleurir sa tombe, arroser sa tombe, s'occuper en fin de compte du lieu où elle séjournera plus tard. Et là, on a déjà la mise en scène de l'absurde. Absurdus, ce qui ne répond à rien. Se lever pour entretenir le lieu de sa mort. Voilà. Vivre pour mourir. On entre déjà dans le phénomène de la routine. Une routine qui est absurde, puisque quelqu'un s'occupe de sa tombe, alors que finalement, elle est encore en vie. Faire de la mort le but de sa vie. Incroyable. C'est même pas se donner la mort. C'est s'occuper de sa mort alors que l'on vit. Ce qui veut dire que la grande leçon de sagesse qui se dégage de cet exemple, l'homme doit en quelque sorte se mettre à distance de l'idée de la mort, ne plus se projeter dans l'idée de la mort, parce que si la peur de la mort le hante en permanence, il n'est plus disponible à la vie.